Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, Israël-Palestine, un conflit sans limite. Donald Trump n'était pas à Jérusalem hier pour célébrer le déménagement de l'ambassade des États-Unis dans la ville sainte, mais le président américain avait enregistré un message vidéo pour dire que son pays reste pleinement engagé à faciliter un accord de paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Car à Washington, on se dit convaincu que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël est un facteur de paix. Celle-ci, la paix, était pourtant bien loin hier dans la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens massés à proximité de la frontière de l'enclave dans le cadre des marches du retour organisées depuis la fin mars, moment culminant d'une mobilisation pour commémorer le 70e anniversaire de la Nakba, la catastrophe consécutive pour les Palestiniens à la création de l'État hébreu. Le bilan de la journée d'hier est lourd, le pire depuis la dernière guerre en 2014, 59 Palestiniens tués par des tirs de l'armée israélienne. Alors depuis, les condamnations se multiplient. Si l'ambassadrice américaine à l'ONU estime aujourd'hui qu'Israël a fait preuve de retenue, c'est en complet décalage avec la majorité des réactions internationales. Dans une région déjà instable, le conflit israélo-palestinien qu'on croyait passer au second plan revient une fois de plus dans l'actualité, sans la moindre perspective de règlement. Alors Israël-Palestine, un conflit sans limite. C'est autour de cette question que nous allons discuter jusqu'à 19h en compagnie de trois invités. Martine Gozlan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter, rédactrice en chef à l'hebdomadaire Marianne. Vous venez de publier Israël, 70 ans, 7 clés pour comprendre aux éditions de l'Archipel. Pour discuter avec vous, Alain Grèche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du site Orient 21, spécialiste du Proche-Orient. Vous avez publié l'an dernier, c'était à la découverte, une bande dessinée, un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française, ouvrage que vous avez écrit avec, enfin elle a fait les dessins, Hélène Aldeguer ou Aldeguer, je ne sais pas comment
Aldeguer.
Il faut prononcer. Aldeguer. Et puis troisième invité, Jean-Claude Lescure, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur des universités en histoire contemporaine à l'université de Cergy Pontoise. Et vous publiez, vous aussi ces jours-ci, le conflit israélo-palestinien en 100 questions aux éditions Talendier. Alors suite à la journée d'hier, je le disais, il y a eu énormément de réactions avec notamment, je ne citerai que celle-là, mais ONG Amnesty International qui parle de crimes de guerre. Est-ce que d'abord, il pourrait y avoir une forme de consensus pour dire qu'hier, ce sont bien des crimes de guerre qui ont eu lieu et auquel cas, comment répondre à de tels crimes ? Jean-Claude Lescure.
Alors, la définition de crime de guerre en droit international est toujours sujette à appréciation. Dans le cas de l'appréciation portée par Amnesty International sur le sujet, je pense qu'on est effectivement sur quelque chose qui peut s'en approcher. On a des militaires armés, lourdement, qui vont tirer sur des civils, femmes et enfants. On est dans une disproportion d'utilisation de la force. Ça, c'est indéniable. Ensuite, est-ce que ça rentre dans un cadre juridique international comme cela ? Il faudrait des enquêtes indépendantes. Or ça, malgré les demandes faites par l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique aujourd'hui, on n'y aura sans doute pas droit. Il y aura une opposition, comme d'habitude, qui sera le fait des États-Unis notamment.
Martine Gozlan.
Non, je n'utiliserai pas le mot de crime de guerre. On assiste effectivement à une tragédie palestinienne. On peut se poser des questions sur le mode de riposte. Et il y a certainement un débat au sein de l'establishment militaire. On peut se demander, avec des experts militaires, pourquoi il n'y a pas eu plus de méthodes de dissuasion avec des grenades, avec des grenades assourdissantes, avec tout le panel dont on dispose. Mais par ailleurs, il faut essayer de regarder aussi le réel. Parce que lorsque vous dites les femmes et les enfants, il y a effectivement un nombre considérable. Il y a des enfants, j'ai vu qu'il y avait 8 enfants. Mais le problème, c'est que les stratégies adoptées par ceux qui contrôlent la bande de Gaza, ils ne sont pas seulement le Hamas, parce que le Hamas, bien sûr, est concurrencé par le djihad islamique et par toutes sortes d'éléments, notamment des éléments favorables au Hezbollah. Et il y avait eu une sorte d'accord secret avec les autorités israéliennes, à savoir qu'il ne fallait pas s'approcher à plus de 700 mètres de la barrière.
Donc ça veut dire quoi ? Que pour vous, il y a une responsabilité qui est partagée dans les événements qui se sont déroulés hier ?
Non, forcément.
Et partagée entre qui ?
Bien sûr qu'il y a une responsabilité du Hamas. Bien sûr que les Israéliens ripostent dans une mesure qui est, selon toute la planète, disproportionnée. Mais il faut se mettre... il y a une déferlante. À la fois, il y a des civils et des éléments armés. Hier, à Rafah, il y a eu 3 tentatives de faire exploser la clôture. Il y a eu des tentatives d'infiltration sans cesse. Les kibboutz sont à moins de 1 km. Il faut se mettre aussi dans cette perspective.
Alain Grèche, la qualification de ce qui s'est passé hier et sur la responsabilité ou les responsabilités.
Il n'y a aucun doute, ce sont des crimes de guerre et des crimes de guerre pensés comme tels. Il y a une déclaration de Avigdor Lieberman, ministre de la Défense, qui a dit « il n'y a pas de gens innocents à Gaza ». Ça veut dire que les femmes, les enfants, les adultes ne sont pas innocents. Et quand on tire d'un côté on tire pour tuer, et il y a eu 60 morts. Imaginons un moment un attentat à Tel Aviv ou à Jérusalem avec 60 morts. Vous imaginez quelle aurait été la réaction de la communauté internationale ? Vous auriez aujourd'hui un meeting international de solidarité avec Israël. Là, on va revenir sur les réactions, mais elles sont quand même très faibles. Et puis l'autre élément peu souligné, mais qu'a souligné par exemple Médecins sans frontières, c'est le type de balles qui sont tirées. Les balles sont tirées pour faire des handicaps. C'est-à-dire même quand elles ne tuent pas, elles rentrent dans la jambe, elles explosent à l'intérieur et la personne est handicapée à vie. Et ça, c'est les témoignages de médecins français là-bas, de MSF et des organisations internationales. Si ça, ce n'est pas un crime de guerre, je ne sais pas ce que sont les crimes de guerre.
Alors c'est vrai qu'il y a une vraie interrogation, une vraie incompréhension par rapport aux moyens qui ont été utilisés. Hier, il y aurait pu y avoir des moyens dissuasifs, plus dissuasifs, comme l'évoquait Martine Gozlan. Jean-Claude Lescure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut expliquer que l'armée israélienne en soit arrivée à utiliser des snipers pour tuer des Palestiniens. Est-ce que ça veut dire que Israël considérait que sa sécurité était directement menacée si jamais les manifestants franchissaient la barrière de sécurité ?
Alors, on a eu des répétitions en réalité de ce qui s'est passé hier depuis début avril, puisque l'organisation des marches de la terre, des marches du retour, ont été initiés par des réunions dès le mois de janvier, en dehors du Hamas, par des responsables de la société civile palestinienne, si société civile il y a encore à Gaza. Et ce n'est qu'après, dans cette recherche d'une alternative, de nouveaux modes d'action, que le Hamas s'est rallié à ce type de choses. Les Israéliens, dès le départ, lorsque ces marches sur la terre ont été annoncées, ont clairement annoncé qu'il ne tolérerait pas des actions avec des rapprochements de la clôture, des tentatives d'infiltration. Or, Israël, depuis des années, depuis au moins 2007 et la prise du pouvoir du Hamas ou l'élection victorieuse du Hamas à Gaza, fait face à, je reprends leur vocabulaire, des infiltrations par le biais de creusement de tunnels, d'envois de roquettes sur Sderot et sur les kibboutz qui sont à proximité. Et donc la question sécuritaire pour les Israéliens est extrêmement importante. Il y a un autre enjeu derrière. On est dans une phase de fin de mandat de la majorité à la Knesset et de mise en cause de Netanyahou en Israël. Il y a aussi des instrumentalisations de la violence, de la guerre, de la part de l'État israélien. Donc d'un côté, vous avez le Hamas qui ne veut pas voir sa mainmise sur les populations gazaouites lui échapper, et des marches pacifiques, ce n'était pas dans la stratégie du tout du Hamas. De l'autre côté, un gouvernement israélien et un chef du gouvernement israélien qui est aussi dans une posture où la violence peut le servir à l'intérieur en faisant jouer l'unité nationale israélienne.
Alors justement, regardons du côté israélien, après on regardera à nouveau du côté palestinien, mais sur ce que vous dites, Jean-Claude Lescure, et qu'on peut retrouver aussi dans une interview aujourd'hui dans Libération d'un chercheur qui s'appelle Xavier Guignard et qui dit ceci: il y a une attente côté israélien que ça évolue dans ce sens. Si cela virait à un conflit militaire, Israël aurait les mains libres pour répondre, alors qu'aujourd'hui, ils sont obligés de vendre une situation de péril sécuritaire qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine Gozlan? Et je poserai la même question à Alain Grèche.
Non, je pense qu'il y a... essayons de
Est-ce qu'il y a une situation de péril sécuritaire?
Eh bien oui, il y a une situation de péril sécuritaire. Je suis désolée. Et lorsque vous disiez, Alain Grèche, qu'il n'y avait pas de condamnation internationale d'une réprobation vis-à-vis d'Israël, c'est faux. C'est faux. La réprobation est générale. Mais la réprobation que l'on peut comprendre, puisque le nombre de morts, comme chaque fois, est disproportionné, entre guillemets, et qu'on a pu même entendre Benoît Hamon, ce matin, se désoler de cette disproportion en disant « hélas, il n'y a pas de victimes du côté israélien ». Alors cette « hélas », moi, me fait penser à beaucoup de choses, me renvoie à tout
un passé. Il a vraiment dit « hélas, il n'y a pas de victimes du côté israélien ». Alors je n'ai pas entendu, ça me semble quand même très étrange.
Oui, mais ceci est exact.
Je crois, mais...
Bon, j'espère que ma mémoire n'a pas fourché, mais en tout cas, ce que je dis donc se situe absolument à contre-courant, parce que l'évocation d'un péril sécuritaire pour Israël n'est pas en odeur de sainteté. Mais lorsqu'on voit qu'il y a des dizaines de milliers de Palestiniens, et ces Palestiniens, évidemment, c'est une masse manipulée par le Hamas, par les groupes extrémistes, par le djihad, par des éléments proches du Hezbollah, et vous savez que le Hezbollah prépare ses missiles à la frontière nord, et ils se dirigent, et ils ont pour consigne de franchir la barrière de sécurité. Des plans ont été distribués, des plans en arabe, indiquant les moyens de franchir la frontière et le nombre de kilomètres qui séparent la zone où ils se rendent, la barrière du premier kibbutz Nahal-Oz.
Donc pour vous, ça n'était pas juste une manifestation, c'était
quelque chose... Mais ce n'est pas une manifestation pacifiste, ce sont des dizaines de milliers de gens qui ont été complètement manipulés par une dictature religieuse, tyrannique et cruelle, et ça n'excuse rien non plus de la riposte, et il faut qu'Israël réfléchisse à sa façon de répliquer.
Alain Grech.
Je suis toujours frappé par la manière dont on parle des Arabes, des Palestiniens, c'est des masses. Les Israéliens, c'est un peuple, chacun réfléchit, mais les Palestiniens, c'est une masse informe, toujours manipulée par des forces extérieures. Or, je rappelle quand même que l'essentiel des manifestations, des manifestants, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ne vont pas la plupart jusqu'au mur, c'est des jeunes, quelques jeunes qui vont à la frontière. Ça a été décidé par la société civile, ça a été décidé au départ contre le Hamas et contre les organisations, parce que ces Palestiniens ne sont pas manipulés, ils ont envie aussi que ça change chez eux. Donc, cette vision des Arabes et c'est vraiment une vision coloniale pour moi. Alors, est-ce que Israël est menacé? Je veux dire, l'usage de la menace par les gouvernements israéliens depuis 30 ans, elle est permanente. Avant, c'était Saddam Hussein. Avant, c'était Sadat, l'Égypte. Et puis après, c'était Saddam Hussein. En 2002, il y a une déclaration de Netanyahou qui explique le jour où on renverse Saddam Hussein, vous allez voir comment la situation va s'améliorer dans la région. On sait ce qu'il en a été. Aujourd'hui, on nous dit il y a une menace iranienne. Je vous lis une déclaration. Je ne sous-estime en rien le risque nucléaire iranien, mais vous ne m'entendrez jamais, le mot m'exaspère, dire qu'une éventuelle bombe atomique iranienne constitue une menace existentielle pour Israël. Pour une bonne raison, nous sommes une des plus grandes puissances militaires de la planète. Et qui est l'auteur de cette déclaration? Ephraïm Halevi, l'ancien chef du Mossad. Donc, je pense qu'il y a une manipulation de la peur. Il y a une peur chez les Israéliens qui est réelle. Au niveau de la population, je n'en doute pas, on peut en rediscuter. Mais il y a une manipulation par les dirigeants qui amène à renverser complètement les rôles. Je veux dire, aujourd'hui, quelle que soit la manière dont on voit la question palestinienne, il y a un occupant et un occuppé. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, il y a quelqu'un qui est en dessous. C'est pas deux partenaires égaux.
Mais quand vous dites Alain Grech, ça n'était pas le Hamas qui était derrière ces manifestations, en tout cas pas au début, ça se faisait plutôt contre ces manifestations. Elles se faisaient pour quel type de revendications? Est-ce que ce sont avant tout finalement des revendications qui sont peut-être d'ordre économique et social, disons, parce que la situation est très compliquée, en particulier dans la bande de Gaza, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer que côté Cisjordanie, de ce côté-là, ça bouge assez peu. C'est-à-dire on est peut-être moins dans des revendications politiques aujourd'hui que des revendications économiques.
Il y a une exaspération de la population de Gaza qui est énorme. C'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison dont ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas aller se faire soigner à l'étranger. Ils ne peuvent pas faire des études à l'étranger. Et d'ailleurs, en partie, la responsabilité est aussi égyptienne, puisque l'autre côté de Gaza... Donc il y a une vraie... Il n'y a aucune perspective. J'ai écouté des interviews de jeunes qui disent « Moi, je vais me faire tuer, parce que je n'ai aucune perspective ici. » Et ça, c'est... Alors, les Israéliens disent « Mais Gaza n'est pas un territoire occupé. » Mais c'est un mensonge. Les Nations Unies considèrent que Gaza continue à être un territoire occupé. Simplement, les Israéliens, comme disent les Palestiniens, les geôliers, ils sont à l'extérieur de la prison, ils ne sont pas à l'intérieur. On ne peut rien reconstruire, on ne peut pas se développer. Ça n'empêche pas qu'il y ait une responsabilité du Hamas et on peut discuter très longtemps sur le Hamas. Mais cette situation insupportable, elle crée les conditions de manifestation, elle crée les conditions de gens qui deviennent des martyrs.
Alors Martine Gozan et ensuite Jean-Claude Descure.
Le Hamas était en perte de légitimité totale. De même qu'en Cisjordanie, il y a une autorité palestinienne avec un Mahmoud Abbas qui a accumulé les slogans antisémites hallucinants. Le Hamas cherchait de toute façon un moyen d'occulter sa perte de légitimité dans une population qui contestait totalement sa gestion des événements.
Et avec ce qui vient de se passer, ça lui redonne de la légitimité ?
C'est ce sur quoi il a... bien sûr, il a basé sa politique, qui est une politique suicidaire, mais qui n'est pas tellement étonnante. Parce que quand vous dites, Alain Grèche, qu'il y a une sorte de mépris à dire les masses palestiniennes, etc., c'est faux. Parce que vous avez un discours complètement idéologique. Ce n'est pas vrai. Le peuple palestinien, personne ne lui dénie ni le droit à l'existence, ni le droit de parler, ni le droit, ni vraiment le droit au contraire. Au contraire, moi je suis désolée, le peuple palestinien qui vit une situation tragique a également été pris en otage, et c'est une grande partie de son malheur, par des leaders cyniques, incapables, qui se sont appuyés sur la victimisation pour stopper tout élan, vraiment tout élan de construction et toute énergie. Moi je me suis rendue à Gaza il y a quelques années, et j'ai rencontré des gens magnifiques. Je me suis rendue en Cisjordanie, j'ai rencontré un Palestinien magnifique, qui le philosophe Sari Nusseibeh, et qui a été viré de son université par le Hamas. Tout le Hamas compte sur une victoire médiatique par le sang. Et c'est le drame des Palestiniens. Ils n'ont jamais eu de victoire politique, car leurs leaders, cyniquement, se sont basés sur le nombre de victimes pour avancer.
Alors si on reste peut-être justement dans une approche un peu cynique, justement Jean-Claude Descure, c'est-à-dire à qui ça profite finalement ? Est-ce que ça profite autant, ce qui vient de se passer, au gouvernement israélien qu'au Hamas ? C'est-à-dire le Hamas, ça lui permettrait de retrouver une forme de légitimité, le gouvernement israélien peut-être de justifier une intervention militaire plus, comment dire, d'ampleur un peu plus importante, comme ce qui s'est passé par exemple en 2014 ?
Non, enfin, sur l'intervention militaire israélienne à Gaza, depuis 2014, ils n'ont pas besoin d'y retourner. Hein. En revanche, il y a deux points d'importance. Il y en a un, c'est la maîtrise de l'agenda médiatique. Depuis 2011 et les révolutions arabes, la guerre en Syrie, etc., le conflit israélo-palestinien qui occupait les ondes et les télés a pratiquement disparu de l'agenda médiatique international. Or, un des éléments depuis quasiment les origines, c'est d'occuper véritablement cet espace et de le remettre. Là, les marches, pas organisées initialement par le Hamas, il faut vraiment le dire, mais récupérées ensuite par le Hamas, qui l'a organisé, qui a mis en place des services d'autobus pour amener les populations aux différents points de ralliement, il a besoin qu'on remette sur l'agenda médiatique véritablement l'aspect crise.
Et c'est le cas d'ailleurs, hein, je vous cite juste et je vous laisse poursuivre ensuite Jean-Claude Descure, cette phrase assez terrible, moi je trouve, de l'envoyé spécial du journal Le Monde à Gaza, Christophe Ayad, à propos des plus de 100 morts palestiniens en 6 semaines, hein, c'est pas uniquement ceux d'hier, il y a eu les jours précédents, et il dit donc sur ces 100 morts en 6 semaines, tel est le prix inouï que les Gazaouis étaient prêts à payer pour se maintenir sur la carte des préoccupations mondiales.
Ben, en effet, là, la différenciation, quand on parle des Palestiniens, on est en train de... on est dans une construction dans une certaine mesure. C'est-à-dire que les différences sont extrêmement importantes entre des Palestiniens aujourd'hui massacrés à Yarmouk en Syrie et réfugiés depuis 1948, les Palestiniens de Gaza, qui sont pour la plupart des enfants de réfugiés de 48 installés à Gaza. La population est passée en 48 de 80 000 personnes à 320 000 personnes. Et aujourd'hui, on est sur des millions d'individus. Avec un statut qui est transmissible de père en fils, d'un statut de réfugié garanti par l'UNRWA, l'Office des Nations Unies, pour les réfugiés dans cette région. Du même coup, vous avez un intérêt palestinien, et c'est triste de devoir dire ça, d'avoir des familles nombreuses, parce que c'est un accès à une forme de rente versée par la communauté internationale. Et du même coup, on a une population palestinienne dans cette zone où la majorité des habitants sont des descendants de réfugiés qui vivent toujours avec ce rêve du droit au retour. Côté cisjordanien, on a une population qui est beaucoup plus mélangée. Vous avez des camps de réfugiés, mais qui ne sont pas majoritaires. Et il y a une structure à la fois urbaines et villageoises, où les élites traditionnelles qui existaient avant 1948 se sont maintenues véritablement au pouvoir et continuent d'exercer le pouvoir, ce sont les mêmes familles qui sont là. Du même coup, vous avez des intérêts et des jeux politiques qui sont différents, ce qui explique que la place de l'OLP est en Cisjordanie est forte, elle est plus présente à Gaza, où le Hamas l'a battue aux élections de 2007.
Je voudrais quand même rappeler une seconde qu'il y a eu, il y a un mois et demi, tentative d'assassinat du Premier ministre de l'autorité palestinienne qui pénétrait à Gaza pour inaugurer une usine de désalinisation d'eau de mer. Ça veut dire qu'il entrait à Gaza, c'était un premier geste politique vers la réconciliation, une réconciliation utopique, et que le premier geste du Hamas a été de tenter de l'assassiner.
Alors justement, sur cette réconciliation, Alain Grech, oui. Fatah, Hamas, c'est vrai qu'il y a eu un processus de rapprochement.
C'est vrai que la division pèse. Et c'est vrai que les situations que vivent les Palestiniens, très différentes, en fonction de la Cisjordanie, de Gaza, de la Syrie, du Liban, etc. etc.
Mais qui représente les Palestiniens aujourd'hui?
Écoutez, je ne sais pas qui représente, c'est-à-dire très longtemps ça a été l'OLP, bien que le Hamas n'était pas dans l'OLP, il y avait un consensus national. Et aujourd'hui, c'est vrai que la crise politique, la crise interne à l'OLP ne favorise pas les choses. Elle favorise aussi parce que, il faut le dire, l'autorité palestinienne a tenté de négocier avec Israël et ça a échoué. Et ça a échoué, je m'excuse de le dire, à cause de l'intransigeance israélienne et à cause du fait qu'il est clair depuis 10 ans que Netanyahou ne veut pas un État palestinien et qu'il n'y aura pas de solution. Donc, d'une certaine manière, ça a discrédité le Fatah. De l'autre, effectivement, la gestion même du Hamas a discrédité en partie cette organisation, même si elle continue à avoir, comme le Fatah, une influence. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui unit les Palestiniens. C'est la conscience nationale. C'est la volonté d'avoir un État. C'est la volonté d'être reconnu, de ne pas être méprisé. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, ça s'exprime de manière très brutale à Gaza, parce que je dis, il n'y a aucune perspective pour un jeune de 20 ans et que se faire tuer apparaît comme une perspective. Mais cette... il y a beaucoup une idée que finalement, la question palestinienne, elle est en train de disparaître. Ça fait 40 ans, à différents moments, on nous a dit « mais finalement, la question palestinienne est en train de disparaître ». Je pense qu'on se trompe, que c'est au cœur de tous les conflits qu'il y a dans la région et que, je dirais aujourd'hui, dans un monde arabe divisé au niveau populaire, la seule chose qui unit tout le monde, c'est le soutien aux Palestiniens. Pas le soutien des gouvernements arabes. Ça, ils n'ont jamais été d'ailleurs très, très favorables. Enfin, vraiment des soutiens, mais dans la population. Et je pense que l'idée qu'on va mettre de côté la question palestinienne, qui est l'idée qu'on va faire disparaître cette question, elle est totalement utopique.
Alors, ce soutien assez large que vous décrivez à la population palestinienne, de la part des populations arabes à Alain Grech, il trouve quelle traduction aujourd'hui sur le plan politique et notamment sur le plan des négociations des Palestiniens? Donc, même s'il y a un processus de rapprochement qui semble quand même assez illusoire entre le Hamas et le Fatah qui n'ont pas de véritable représentation. Du côté israélien, on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment un plan pour relancer. Il y a les Américains qui disent, si, nous on a un plan. Il y a le gendre de George Bush, de Donald Trump, qui était à Jérusalem hier et qui, depuis plusieurs mois, fait la tournée de la région en disant, bientôt on va vous présenter un plan. On n'est même pas sûr qu'il existe. On n'est même pas sûr d'ailleurs que Donald Trump en ait un, parce que je rappelle juste cette phrase quand même assez incroyable qu'il avait eue en février 2017 quand il recevait Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche. Il disait, je regarde la solution à deux États et à un État. Et si Israël et les Palestiniens sont contents, je suis content avec la solution qu'ils préfèrent. Les deux me conviennent, ce qui n'est pas vraiment... on a déjà fait direct comme idée pour essayer de régler ce conflit. Il y a encore aujourd'hui des marges de manœuvre, des négociations qui existent, si ce n'est à... de manière ouverte, peut-être de manière plus indirecte.
Il est toujours difficile de répondre à cette question parce qu'on sait qu'une bonne partie des contacts se font de façon discrète, sinon secrète, et depuis toujours. Mais Alain Grech a posé la question qui est importante. Qui représente aujourd'hui les Palestiniens? Il y a un vrai problème de leadership. On est en fin de parcours politique pour le responsable de l'OLP et président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui est âgé de plus de 80 ans, donc qui va passer la main. Les éventuels successeurs identifiés sont les uns réfugiés depuis un moment dans les États du Golfe, c'est Dahlan par exemple, les autres sont en prison israélienne. Bref, il y a une question de leadership qui véritablement se pose à ce moment-là.
J'ai lu qu'il y avait des négociations qui existaient quand même entre Israël, le gouvernement israélien, et le Hamas. Alors,
oui,
pas évidemment au niveau de...
voilà. Il y a un canal. C'est ce que m'a confirmé très récemment une source diplomatique.
Mais pour négocier quoi?
Dans la deuxième phase des marches, parce que évidemment que les Israéliens n'ont aucun intérêt à, et donc ils essayaient de négocier. Puis il y a un canal avec l'Égypte. Souvenons-nous que le 13 mai, le leader du Hamas s'est rendu au Caire. L'Égypte, le Caire a proposé sa médiation dans cette affaire sanglante et le Hamas a refusé. Est-ce qu'on peut comprendre ce que ça signifie de refuser une médiation égyptienne? C'est vraiment, vraiment, quand vous parlez de rapprochement Hamas-Fatah, c'est faux. Il n'y a aucun rapprochement. Par contre, il y a un canal, effectivement, mais là, on est en train de déborder à l'échelon régional. Il y a un canal entre Riyad, enfin entre l'Arabie Saoudite et Israël.
Jean-Claude Esquire.
Alors, effectivement, il y a toujours eu des négociations. Les ponts ne sont jamais coupés, ne serait-ce que parce que Gaza vit véritablement avec des produits qui arrivent d'Israël, que ça soit l'électricité, que ça soit le gaz. L'un des problèmes hier, sur un des points de passage, ça a été une tentative de sabotage, notamment des conduites de gaz par une partie de manifestants.
Il y a des éléments
autour de l'eau, etc., etc. Donc il y a une série de dossiers sur lesquels, bon, l'intérêt d'Israël, c'est pas non plus de voir l'appauvrissement de Gaza se poursuivre. La désespérance, les 60% de population qui sont au chômage, des conditions terribles de vie, ils savent parfaitement bien, les analystes israéliens, que c'est la meilleure façon de pousser les jeunes qui n'ont pas d'espoir dans les bras d'actions suicidaires ou d'actions terroristes de toutes sortes.
Mais est-ce que l'intérêt d'Israël, c'est d'aller un peu plus loin dans une solution politique qui passerait par exemple par cette fameuse solution à deux États dont Alain Grech nous disait qu'elle n'était plus du tout dans le viseur du gouvernement israélien.
Il y avait un élément. Bon, le Hamas a changé de posture au printemps. Jusqu'à présent, la charte du Hamas niait l'existence même d'Israël. Ils ont annoncé qu'ils revenaient dessus. Le gouvernement
Netanyahou... Ils acceptent l'idée d'un État palestinien limité aux frontières de 67. Ce qui est une façon indirecte de reconnaître Israël.
C'est énorme dans le vocabulaire. Alors après, est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'ils ne sont pas crédibles? C'est un point d'interrogation. L'autre élément, c'est que le Hamas est toujours considéré par les organisations internationale comme étant une organisation de terroristes avec qui le dialogue n'est pas véritablement possible. Et du point de vue israélien, on retombe sur la question sécuritaire derrière.
Alain Grech.
Moi, si on prend un peu de recul par rapport à la situation sur le terrain, on est dans une situation indépendante, ne revenons pas sur l'histoire, sur le territoire historique de la Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire le territoire qu'il a été défini après la Première Guerre mondiale, il y a environ 13 millions d'individus. Là-dessus, 6,5 millions sont des juifs israéliens et 6,5 millions sont des Palestiniens, soit certains des Palestiniens israéliens, soit des Arabes. On est sur un petit territoire. Là-dessus, quelles sont les solutions possibles, théoriques? Le partage. C'est le processus d'Oslo qui devait aboutir au partage. Je pense que ça a été rejeté largement par la faute des Israéliens, qui ont installé sur le territoire de la Cisjordanie et à Jérusalem, aujourd'hui 650 000 colons. C'est-à-dire, la solution à deux États, elle devient physiquement impossible.
Enfin, par la faute des Israéliens, on peut aussi dire par la faute des Pays-Bas, 1947.
Je parle de ce qui s'est passé après les accords d'Oslo. Donc, soit on partage, soit on vit sur le même territoire, et on a alors soit un État unique, c'est-à-dire un État où il y a 13 millions de citoyens, ils ont tous les mêmes droits, et on arrête, Israël ne sera plus un État juif, il y aura un État qui s'appelait Israël-Palestine, et qui sera, et ce qu'évidemment les Israéliens refusent. Soit on a une situation qui est la situation de fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un territoire, deux populations qui vivent sur le même territoire, mais qui ne sont pas soumis aux mêmes lois. C'est strictement ce que signifie l'apartheid. C'est-à-dire vous êtes un Palestinien de Jérusalem-Est, vous n'êtes pas soumis aux mêmes lois que votre voisin qui vit dans une colonie à Jérusalem-Est. C'est ça le choix existentiel. Et c'est en ce sens que les dirigeants israéliens sont devant une impasse qu'ils n'arriveront pas à résoudre.
Martine Gosselin.
Excusez-moi, pourquoi la colonisation s'est-elle tellement renforcée? Quand, bien sûr, vous avez raison, il y a aujourd'hui 400 000 colons. Donc, le problème de l'évacuation et du retrait,
c'est... En Cisjordanie, hein,
Pardon,
de la Cisjordanie. Parce que dans la bande de Gaza, il y a eu une évacuation.
Bien sûr, en 2005, sous l'égide d'Ariel Sharon. Et ça a été très contesté, mais elle s'est produite, et sans heurts. Donc, dans la bande de Gaza, il y avait 6 500 personnes à évacuer. En 1982, quand Israël, en application des accords de paix avec l'Égypte, a évacué Yamin, il y avait 2500 personnes. Maintenant, il y en a 400 000. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de mantra qui consiste à dire retrait, retrait, retrait. Mais pourquoi ? Mais je suis désolée, il faut revenir sur l'histoire de ces dernières années. Pourquoi la colonisation s'est-elle renforcée ? Pourquoi la gauche ? Pourquoi la gauche qui plaidait pour un retrait s'est-elle tellement dissoute ? Mais tout simplement parce que on fait l'impasse toujours sur le même processus. C'est-à-dire le processus du terrorisme, le processus des attentats suicides. On dit le mur de séparation. Bien sûr que c'est infernal de vivre derrière un mur de séparation. Pourquoi a-t-il été érigé par Ariel Sharon en 2003 à la suite de l'intifada, la seconde intifada?
Mais ça n'empêche pas de négocier, ça,
oui,
Martine
Gosselin. Bien sûr, mais la négociation, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les Israéliens ont toujours tout refusé. C'est faux. Il y a eu d'innombrables séances de négociation. Il y a eu des chances qui auraient pu être saisies. Chaque fois, il y a eu une volte-face. Pourquoi ? Parce que les négociateurs palestiniens, au dernier moment, se rendaient compte que de toute façon, ils avaient peur d'être délégitimés par leur propre population. Mais il faut encore reparler de la population palestinienne, notamment de Cisjordanie. Moi, je suis désolée, quand on va en Cisjordanie, il y a des initiatives, il y a des gens qui se parlent, puisque vous évoquiez justement, est-ce qu'on peut encore se parler ? Il y a des gens qui se parlent, il y a des initiatives, non pas seulement, pas du tout des ONG israéliennes pacifiques, que je respecte absolument, mais des rencontres qui se multiplient entre des habitants des colonies, oui, des habitants et des habitantes des colonies, et des habitants des villages, des Palestiniens et des Palestiniennes. Je pense aussi, bon, juste une mention, les Femmes pour la Paix, c'est un mouvement très important. 30 000 sympathisants, et avec des Juifs, des Arabes, des Palestiniennes.
Alain Grèche, une réponse.
Oui, mais ça ne change pas la situation de fait, qui est le fait que les Palestiniens de Cisjordanie vivent sous occupation, et qui ne sont pas soumis aux mêmes lois, que vous avez 6 000 prisonniers politiques, que vous avez des gens comme, je veux citer Salah Hamouri, qui est un avocat, qui est en détention administrative. Vous savez ce que c'est la détention administrative ? C'est vous êtes mis soit en prison, soit chez vous, pour des périodes illimitées. C'est une loi qui date du temps du mandat britannique. C'est une loi contre laquelle les groupes sionistes se sont battus en disant que c'était équivalent aux lois d'Asie, ce qui évidemment n'était pas vrai. Mais tout ça, c'est la réalité. Alors évidemment, dans la vie quotidienne, comment vous voulez faire ? Je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez pas aller d'un endroit à l'autre sans croiser une colonie. Je veux dire, ça c'est une réalité. Mais il y a effectivement une situation politique qu'on ne va pas régler simplement en disant les gens vont s'entendre. Bien sûr, on sait très bien et heureusement que les gens au niveau individuel ils peuvent s'entendre. C'est pas un problème d'il est gentil ou il est pas gentil.
Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit quand même d'une nouvelle caste, d'une nouvelle génération de dirigeants,
voilà,
tout de même.
Et de dirigeants, et peut-être aussi, ça suppose des initiatives qui soient des initiatives fortes. Qui est en mesure aujourd'hui, Jean-Claude Lescure, d'opérer, alors je vais pas, là je sors des Palestiniens et des Israéliens, mais d'opérer un travail de médiation? Est-ce que les États-Unis, par exemple, sont placés correctement pour assurer ce travail, ou bien est-ce qu'à travers notamment la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, ça les porte trop d'un côté ?
La réaction, trouver un interlocuteur qui puisse être un intermédiaire pour des négociations est devenu extrêmement compliqué. Les États-Unis occupaient cette place, la reconnaissance et le transfert de l'ambassade américaine hier, le Hamas d'un côté et Abbas de l'autre côté, ont clairement dit que ça délégitimait la présence et l'intervention américaine. Donc le plan de paix, on a une autre
intervention. Américain Mike Pence, le vice-président des États-Unis, dit: en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, les États-Unis ont choisi les faits au détriment de la fiction, et les faits sont les seules vraies fondations pour une paix juste et durable. Et après tout, s'ils avaient raison, les Américains.
Ça m'a fait penser à la situation de George Orwell, la guerre, c'est la paix. C'est exactement ça. C'est-à-dire, on fait la guerre, mais on prétend que c'est la paix.
Oui, mais ce qui peut aussi faire penser à une situation orwellienne, c'est la conversion, finalement, la fiction d'un mouvement totalement pacifiste et à la Gandhi, alors qu'il y a des centaines de combattants avec des explosifs. Alors,
autre intervenant possible, bon, l'Égypte, qui s'était positionnée, sauf que le Hamas, c'est une émanation historique des frères musulmans, et le régime actuel en Égypte est en guerre, à proprement parler, contre les frères musulmans. Alors, il reste une initiative qui avait été lancée en 2003, qui est l'initiative saoudienne de Ben Salman, qui a été reprise. On assiste à des rapprochements diplomatiques importants entre l'Arabie saoudite et Israël, liés à Daesh et à la présence de l'Iran dans la zone. Pour l'instant, ils sont plutôt en retrait, mais enfin, ça reste un des interlocuteurs. Quant à la France, qui experte toujours vouloir jouer un rôle là. Bah, historiquement, dans la région du Moyen-Orient, ça fait un moment que nous sommes déconsidérés, que ça soit depuis l'époque du mandat britannique et français dans la région, ou depuis 67 et la fameuse phrase de De Gaulle, où la place de la France dans la région auprès des opinions publiques israéliennes a singulièrement été mis à bas.
Et le quartet pour le Moyen-Orient, qui était dirigé à une époque par Tony Blair, qui regroupait les États-Unis, la Russie, l'Union européenne et l'ONU, existe encore ce quartet?
De facto,
j'ai cherché un peu, moi, alors je vous dis sur Internet, une recherche rapide, mais
c'est une antiquité.
C'est une antiquité. Ça existe, mais ça ne sert plus à rien.
Et souvenons-nous que le Hamas est complètement couvé par l'Iran. Ça aussi, c'est.
Et alors quoi? C'est quoi? Ça le discrédite? Il a gagné les élections palestinienne, et en quoi le fait que l'Iran cherche des alliés dans la région? L'Iran cherche beaucoup d'alliés dans la région. Une des choses d'ailleurs qui est intéressante quand on pense à leur stratégie, qui est intelligente, quoi qu'on pense, c'est qu'ils ont des alliés sunnites. Ils sont pas du tout dans une alliance purement chiite. Ils ont le Hezbollah, bien sûr, mais ils sont capables de dresser des alliances. Pourquoi ils sont capables de dresser des alliances? Parce qu'ils apparaissent aux yeux des opinions dans le monde arabe comme ceux qui font face à Israël. Rappelons-nous en 2006, quand il y a eu la guerre entre Israël et le Hezbollah, les photos de Nasrallah, vous les aviez dans toutes les rues arabes parce que on avait l'impression, enfin, quelqu'un qui résistait à l'armée israélienne.
Alain Grèche, est-ce que ça fait de l'Iran, justement, un interlocuteur incontournable pour évoquer ou pour faire avancer cette question israélo-palestinienne? Ou bien, est-ce que, malgré tout, les deux sujets doivent être dissociés ou devraient l'être?
Je pense qu'ils doivent être dissociés. C'est-à-dire, tous les problèmes de la région sont liés. Je veux dire, l'Iran, c'est lié à la Syrie à l'Irak, etc. Je veux dire, et c'est un des problèmes, je veux dire.
Oui, enfin, c'est surtout l'avancée hégémonique iranienne. Hein,
ils ajoutent. Et... mais, je veux dire, il y a 10 ans, on disait l'avancée de Saddam Hussein et la menace de Saddam Hussein. Et on a vu ce que ça donnait, ce type de réflexion.
Pas du tout. Nous avons les faits.
On a détruit l'Irak.
Je suis d'accord avec vous, oui, j'étais contre l'intervention américaine. Ça n'a rien à voir avec l'Iran.
Bah oui, mais chaque fois on dit que ça n'a rien à voir avec l'Iran,
avec la situation précédente. Et vous le savez très bien, parce que tous les amalgames sont extrêmement contre-productifs.
Bah justement,
donc, effectivement, l'Iran, l'intérêt de l'Iran, c'est d'avancer le plus possible, près de la frontière nord. On a vu ce que ça donne, maintenant d'être à Gaza, et de couver, malheureusement, ce Hamas qui déstructure sa population et qui subit effectivement les balles des Israéliens.
Jean-Claude Lescure, et ce sera la conclusion.
On a une actualité importante. On est en train de parler, le Conseil de sécurité est en réunion à l'initiative du Koweït. Il n'en sorti pas grand-chose, mais la communauté internationale est interpellée. Deuxième élément, 18h30. À partir de 18h30, les musulmans commencent d'observer la lune. C'est peut-être le ramadan cette nuit ou demain. Et on sait bien que les éléments de ramadan sont un moment du calendrier extrêmement important dans les formes de mobilisation. Et on ne peut qu'être inquiet pour les jours qui arrivent, au-delà des marches pour la terre à Gaza, sur les conséquences de la situation et de la reconnaissance internationale par les États-Unis du transfert de leur ambassade à Jérusalem.
Et c'est sur cette inquiétude qu'on va se quitter ce soir. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Martine Gozlan, je rappelle, Israël, 70 ans aux éditions de l'Archipel. Jean-Claude Lescure, le conflit israélo-palestinien en 100 questions, c'était chez Talendier. Et Alain Grèche, un chant d'amour Israël-Palestine, une histoire française aux éditions de La Découverte avec Hélène Aldeguer. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Isol Sicard, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Florent Bujon. Arnaud Laporte, la dispute, ce sera dans quelques instants.
Oui, une dispute beaucoup plus calme. On va parler de musique ce soir dans la dispute. Mais dans du grain à moudre, on parlera de quoi demain, Hervé Gardette?
On sera tous à bicyclette demain. La France a-t-elle la culture du vélo? Le pays du Tour de France a-t-il la culture du vélo?
Oui, le grain à moudre, terre de contraste. Merci beaucoup, Hervé Gardette. Tout de suite, vous écoutez France Culture. Il est 19h, l'heure des titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.